de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire,
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil?
Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, alors pas de blind test, mais nous allons entendre un grand réalisateur. Il est iranien, c'est Mohamed Rasoulov pour Les graines du figuier sauvage qui a remporté le prix spécial du jury au dernier festival de Cannes. Alors, autour de moi, eh bien, il y a les chroniqueurs habituels. Et alors, la dernière fois, il y avait un point commun entre toi, Sophia, et toi, Manu. C'était, vous aviez deux films avec des animaux. Cette fois-ci, vous avez deux films avec Donzelli. Alors, il y en a un où elle joue l'actrice et il y en a un autre où elle est réalisatrice. Alors, toi, Manu, tu vas parler d'un documentaire.
Un documentaire sur les acteurs, en fait. Hein, les acteurs au théâtre qui s'appelle Rue du Conservatoire. Et puis, je vais vous dire aussi un mot d'un thriller qui s'appelle Jour de colère. Et enfin, un petit mot sur une reprise, La Rue Rouge de Fritz Lang.
Et donc Valérie Donzelli joue dans un film, un film posthume en quelque sorte, Sophia.
Oui, tout à fait, le dernier film de Sophie Filière, Ma vie, ma gueule.
Et puis toi, Guillaume, tu reviens sur un film qui avait eu peu d'écran lors de sa sortie.
Oui, c'était en mai dernier, et donc le bonheur de la VOD, c'est de pouvoir le voir arriver dans vos foyers. C'est un film qui s'appelle La Morsure, et c'est de Robin de Saint-Blanca.
Nous débutons Cinérama avec Ma vie, ma gueule. Sophie Filière nous a quittés en 2023, à moins de 60 ans. Il s'agit donc d'un film qu'elle a bien tourné, mais que ses enfants ont monté.
Cinérama, je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Comment vous vous sentez?
Moche.
Il est impossible de visionner le dernier film de Sophie Filière autrement qu'à travers le prisme du départ prématuré de la réalisatrice qui nous a quittés avant la sortie de son ultime œuvre, Ma vie, ma gueule, très bien reçue cette année à Cannes où il était sélectionné à la quinzaine des cinéastes. Impossible d'en parler donc sans lui rendre hommage. Diplômé en 90 de la toute première promotion de la Fémis en réalisation, Filière a commencé par quelques courts-métrages avant d'en signer 6 longs. Durant l'aventure de Ma vie, ma gueule, la réalisatrice était malade, fatiguée mais heureuse, dit Philippe Catherine, sur le tournage de ce 7e long qui les a menés jusqu'au nord de l'Écosse. Hospitalisée le lendemain du dernier jour de tournage, Sophie Filière s'est finalement éteinte en juillet 2023 à 58 ans, en confiant donc à ses deux enfants, comme tu le disais Vincent, ses deux enfants Agathe et Adam Bonitzer, le soin de finir cette œuvre d'adieu qui marque la fin d'une carrière aussi singulière que marquante.
La nuit, je brille.
Salut Barbie.
J'ai 55 ans et je sais toujours pas quelle est ma nature. Vous la connaissez, vous, ma nature? Vous êtes Catherine Philippe?
Non, alors c'est l'inverse, c'est Philippe Catherine.
Ah oui, c'est l'inverse. T'as toujours tes cigarettes de connasse?
T'es sûr que ça va, Barbs?
J'ai jamais dit que ça allait.
Filière a su marquer le cinéma français avec des films introspectifs, parfois abscons, mais toujours empreints d'une étonnante singularité. Dès 1994, dans son cours Des filles et des chiens, récompensé du prix Jean Vigo, elle proposait une comédie fantaisiste qui posait d'emblée les bases de ce qui fera son cinéma, un goût prononcé pour les portraits de femmes, à commencer par ceux de sa sœur cadette Hélène Filière et de Sandrine Kiberlin, avec qui elle s'associe sur plusieurs de ses films. Un charme décalé, un humour souvent incongru, voire absurde, c'est ce registre comique qui devient très vite son genre de prédilection. Cette approche se confirme dans ses plus récents longs comme La Belle et la Belle en 2018 où sa fille Agathe Bonitzer entre en scène aux côtés de Kiberlin. Singulier récit d'apprentissage à travers deux versions d'un même personnage à différents âges et où la comédie se teinte d'une subtile langueur. Comme dans ses autres œuvres, Filière y navigue entre le rire et une forme de vague à l'âme mélancolique offrant une réflexion décalée sur l'identité et le temps. Outre ses quelques caractéristiques distinctives, son travail se démarque par un sens aigu du texte. Scénariste talentueux, talentueuse, son amour du dialogue et des échanges ciselés se fait toujours ressentir dans des comédies d'auteurs, portant souvent sur le pouvoir du langage, avec une dimension toute psychanalytique. Ma vie, ma gueule ne fait pas exception à cette règle.
J'aimerais rentrer chez moi, mais j'en suis même pas sûre.
Ah bon ?
Faut que je reprenne goût à la vie. Fais comme moi. Va de l'avant. Faut aller de l'avant.
Ma vie, ma gueule narre la crise de la cinquantaine de Barbery Bichette, surnommée Barbie, interprétée par Agnès Jaoui. Tragicomédie en trois actes, scindée d'intertitres simplissimes, hein, carton noir sur lesquels on lit dans une police blanche toute sobre, pif, paf, et puis youkou. Une épiphanie menée tambour battant, avec de fortes ruptures de ton et un bouquet de dialogues funambules qui ont toujours fait le sel du cinéma de filière. Avec Ma vie, ma gueule, la cinéaste laisse derrière elle ce legs, une autofiction aussi intime que fantaisiste, hein, à laquelle Agnès Jaoui prête corps et âme. Elle incarne le relais filmique de la réalisatrice à travers cet alter ego puissant qu'est Barbie, un personnage vraiment loufoque, forte mais complètement paumée, qui représente à la fois la continuité et l'aboutissement des héroïnes développées par la réalisatrice. Sur les traces des personnages troubles, hein, et en quête de sens que l'on retrouvait déjà avec l'anesthésiste borderline, hein, Emmanuel De Vos dans Gentille, ou l'actrice en panne d'imagination et d'inspiration, hein, Chiara Mastroianni dans un chat en 2009. La mise en scène de Ma vie, ma gueule est épurée à l'extrême, pas de musique, des plans serrés sur les visages, où Barbie semble souvent dissociée à côté d'elle-même. Le personnage disparaît littéralement du cadre, traduisant sa perte de repère. Sophie Filière a été saluée pour son style unique, mais ses films sont aussi critiqués pour la difficulté qu'ont certains spectateurs à s'attacher à ces personnages. Ma vie, ma gueule illustre parfaitement cette distance émotionnelle qui rend l'expérience de cinéma plus intellectuelle que sensorielle. Hein. Bon, qu'on ne vienne pas ici essentialiser la manière dont les femmes font du cinéma, puisque Sophie Filière refuse toute sensiblerie ou pathos. Mais cette froideur narrative, combinée à une certaine absurdité des dialogues, peut parfois frôler l'élitisme et le mauvais goût. C'est donc ainsi que Sophie Filière tire sa révérence. Avec Ma vie, ma gueule, elle s'en va à travers son art, comme David Bowie l'avait fait avec Black Star en musique en 2016. Ce film bizarrement existentiel et poétique reste fidèle à la vision singulière de sa réalisatrice. Une introspection pleine de fantaisie, où l'intellectuel et l'émotionnel se heurtent, et où la frontière entre rire et mélancolie demeure floue.
Et nous parlons maintenant de Valérie Donzelli, qui filme le conservatoire et ceux qui craignent de le quitter.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Pour ceux qui ne savent pas encore, Hamlet, c'est la pièce la plus jouée. Aujourd'hui, n'hésitons pas à en faire trop.
De quoi parle la pièce ?
Bah, la pièce de Clémence ou Hamlet ?
Juste pour t'expliquer, Ophélie, sans faire exprès, tue Hamlet.
Je comprends qu'Hamlet est intouchable. Et Clémence le tue, le fait renaître et joué par une femme.
Hamlet !
Carrément.
Elle me dit non, pas du tout, c'est pas politique. Non, non, pas du tout, pas du tout. Et ça l'est.
Je voulais juste montrer la liberté qu'on pouvait avoir, en fait.
Après le surfait, l'amour et les forêts, hein, Valérie Donzelli donc revient avec un projet modeste, hein, un documentaire spontané tourné rapidement dans des conditions légères. La réalisatrice a rencontré donc les élèves du Conservatoire d'art dramatique de Lyon à l'occasion d'une masterclass qu'elle a donnée sur le jeu d'acteur au cinéma. Alors une élève, hein, Clémence Coulon, apprentie metteur en scène, lui a demandé de les filmer et de faire un film sur leur spectacle Hamlet. Alors comme on l'entend là, Hamlet est une femme en fait, hein, et comme il le répète aussi, il y a rien de politique à ça en fait. Hein, bon, ça y est, ça allait quand même un petit peu. Alors on pourra reprocher la surprésence en voix off et aussi à l'écran de Valérie Donzelli, hein, impliquant extraits de films, archives, messages téléphoniques. Mais en filmant les jeunes comédiens en herbe, elle trouve le moyen de parler d'elle, de son rapport à la création avec sincérité. Certains choix formels par défaut sont intéressants. En l'absence de son chef-op, par exemple, qui était malade à un moment, Donzelli remplace la caméra par une série de photos et un enregistrement sonore, s'autorisant ainsi des respirations inattendue et puis un côté work in progress qui est intéressant.
Je sais pas ce qui m'a pris de monter Hamlet. C'est un cauchemar.
Non, je l'avais pas vu là-bas.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai, putain.
On a perdu deux acteurs, il y en a une qui est borne.
Les interventions à leur face caméra des acteurs, hein, aussi touchantes soient-elles, limitent la portée cinématographique, hein, ramenant là le film du côté du film un peu plus institutionnel. Mais dès que la cinéaste filme les répétitions, rue du Conservatoire procure un plaisir modeste mais stimulant. Observer des gens au travail, bah, est une matière passionnante, hein, pas seulement pour ceux qui seraient intéressés par le métier d'acteur. La création des décors, les orientations de la mise en scène, les discussions en coulisses et le dialogue entre Clémence et Valérie dynamisent un documentaire vivant. Alors derrière ce projet, hein, Valérie Donzelli semble vouloir
vouloir retrouver une fraîcheur, une spontanéité perdue avec ses productions récentes. Et qu'elle dit à demi-voix d'ailleurs. Hein. L'hypothèse se justifie quand elle dit littéralement hein, « Je suis fascinée par leur fougue et moi pendant ce temps-là, j'ai 50 ans ». Elle a aussi réalisé son film pendant une période difficile de sa vie liée à une séparation. Alors elle s'est permis donc une cure de jouvence en observant des jeunes totalement à fond dans leur art, passionnés et investis. Cette parenthèse charmante permettra peut-être à la cinéaste de revenir au meilleur de sa forme, à ses premiers longs métrages motivés par un vrai désir de cinéma et peut-être aussi vers le théâtre parce qu'elle aimait la supposition qu'elle voudrait réaliser, enfin qu'elle voudrait mettre en scène une pièce.
Rue du Conservatoire, donc, c'est un documentaire de Valérie Donzelli qui d'habitude fait des fictions et donc il est en salle depuis le 18 septembre. Prix spécial du jury au dernier festival de Cannes, Les Graines du Figuier Sauvage, excellent film de Mohamed Rassoulof, est sur les écrans et nous en parlons maintenant.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Cannes 2024 a vécu un grand moment d'émotion hein, quand vint la projection de Les Graines du Figuier Sauvage de Mohamed Rassoulof. Alors, comme j'ai déjà raconté dans cette émission, dans la grande salle lumière dans laquelle j'avais pris place, sous les applaudissements nourris, le réalisateur iranien est arrivé en brandissant deux photos, celles de deux de ses acteurs principaux qui n'avaient pas pu quitter leur pays, l'Iran. Quant au réalisateur, eh bien, sa présence à Cannes s'est jouée à peu de choses. Hein. Il a fui clandestinement donc, son pays pour échapper à une lourde peine de prison. Et on l'écoutera parler de cela un peu plus tard. Je trouve ça forcément très intéressant parce que ça participe de son film. Ce réalisateur est à mon sens l'un des plus brillants que compte l'Iran. Il a réalisé en 2017 un des plus beaux films iraniens que j'ai jamais vu, Un homme intègre, film qui lui avait valu à l'époque le prix Un certain regard. Et en regardant Les Graines du Figuier Sauvage, j'ai retrouvé la même clarté, qu'elle soit cinématographique ou même morale, la même audace vis-à-vis d'un régime autoritaire au point toujours d'en présenter les imperfections, les erreurs, les hypocrisies et les violences. Dans Un homme intègre, le propos était très universel. Hein. Le droit ne pouvait s'appliquer dans un monde corrompu, peu importe que l'individu soit droit si la société qui le juge ne l'est pas. Dans Les Graines du Figuier Sauvage, le propos est toujours universel et se réduit à une question philosophique. Enfin, il ne se réduit pas qu'à cela, mais en tout cas, il s'en réduit à une. Comment puis-je chaque matin me lever en sachant que je condamne, voire exécute des innocents ? Mais ce propos universel s'ancre dans l'histoire contemporaine de l'Iran, car des images de la révolte qui a suivi la mort de Mahsa Amini, hein, 22 ans, qui avait été arrêtée au motif qu'elle ne respecte pas le code vestimentaire en vigueur, servent à nourrir la fiction. Le film scrute donc la politique de la République islamique. Et on se rappelle, enfin je le rappelle, plus de 500 personnes ont été tuées hein, lors des manifestations qui ont suivi cet événement. Les Graines du Figuier Sauvage mettent en scène Iman et sa famille. Alors Iman, il vient d'être promu juge d'instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran. Le problème, c'est que le pays donc est secoué par les protestations populaires et qu'il doit signer eh bien tout un tas de mises à mort sans sourciller. Alors ça coince un peu, mais le confort a son prix. Dans le foyer, eh bien ces deux filles se rangent du côté des manifestants, d'autant qu'elles peuvent suivre ce qui se passe dans la rue sur les réseaux sociaux quand les parents s'en tiennent à la télévision. Alors sa femme tente de réconcilier tout le monde sans y parvenir vraiment, et le point de bascule, eh bien, est cette scène où la mère soigne le visage meurtri d'une manifestante que ses filles veulent héberger. Mais les choses se gâtent quand Iman ne retrouve plus son arme de service et ne plus l'avoir, c'est un déshonneur. Il peut oublier sa promotion. Alors soupçonnant ses filles d'avoir fait le coup, il ne va pas hésiter à employer la manière forte pour les faire avouer. Et le huis clos familial se déplace ainsi vers le thriller et pas si loin de la fin de The Shining. Alors que nous étions dans le confort de l'appartement, à ne voir de l'extérieur que des images des manifestations sur des smartphones, nous prenons la direction de la campagne dans une maison familiale abandonnée où va se jouer le dénouement de ce film qui ne quitte jamais la clarté de son propos. La question morale à laquelle doit répondre chaque personnage depuis le début du film va donner lieu à une illustration cinématographique dans laquelle s'incarne eh bien, la métaphore d'un pouvoir vacillant. Ce que montre également le cinéaste iranien, c'est le fossé générationnel qui semble se creuser dans son pays où la jeunesse veut en finir avec la théocratie et avec les lois rétrogrades et liberticides. Alors en guise de métaphore, on attend du régime iranien qu'il subisse la même chute que le personnage qui, comme le pouvoir, a tenté par tous les moyens de faire respecter l'ordre et la loi. Alors c'est ce qui peut réjouir les spectateurs. Il y a eu une espèce de ouf de soulagement hein, dans l'immense salle de Cannes donc à l'issue de ce film et des applaudissements nourris donc pour pour le réalisateur iranien que nous allons pouvoir écouter puisqu'il était présent donc à Cannes lors de la conférence de presse.
L'idée de cette histoire me vient de des années de confrontation avec les services secrets et avec les instances culturelles, la censure en Iran. Tous ces personnages m'ont été inspirés par des personnes réelles. Toutes les scènes me viennent de situations réelles. Même toutes les personnes qui ont connu les services secrets en Iran sauront reconnaître ces espaces, ces couloirs. Et l'histoire en elle-même est très proche de la réalité. Lorsque j'étais en prison, nous étions tous très impactés par ce qui se passait à l'extérieur de la prison, le mouvement de protestation qui a éclaté, mais évidemment nous ne pouvions pas en témoigner directement. Nous étions avec mon cher ami Jafar Panahi en prison et nous parlions beaucoup de ce qui se passait à l'extérieur des murs de la prison. Et un jour, il y avait parmi nous un prisonnier politique qui avait entamé une grève de la faim et dont l'état empirait. Il risquait de mourir. Et nous étions dans la cellule de ceux détenus quand sont arrivés des responsables de l'administration pénitentiaire pour examiner son cas. Parce qu'ils se demandaient s'il était vraiment en danger. Et parmi ces responsables, ces autorités pénitentiaires ou judiciaires, l'un d'entre eux m'a pris à part et il m'a donné un stylo en cadeau. Et peu après, il m'a dit, vous savez, chaque jour, quand j'entre dans cette prison, je regarde cette porte, c'était une immense porte cochère, en me demandant quel sera le jour où je me pendrai devant cette porte. Et il m'a dit, tous mes enfants me demandent tous les jours, qu'est-ce que tu fais ? À quoi consacres-tu tes journées ? Et ça, ça a été l'étincelle de départ pour moi, pour créer cette histoire. Pour moi, une question qui se pose vraiment, c'est les individus qui permettent la survie de ce système et quel est leur état d'esprit. Ce sont des êtres humains. Donc, je me demande la question de qu'est-ce qui peut justifier leur motivation, leur mode de pensée. Et donc, je me suis vraiment appliquée à me consacrer aux dimensions psychologiques et des besoins individuels de ces personnes. Quel est leur cheminement pour se dévouer corps et âme à ce système ? Comment est-ce qu'ils se convainquent, ils se persuadent de devoir contribuer à ce régime ?
Alors, on le rappelle, Mohamed Rasoulov donc, a dû quitter son pays précipitamment. Il a été condamné donc, en appel à plus de 6 ans de prison, je crois. Hein, voilà. Et donc, il a rappelé les conditions de tournage, finalement, de ce film, Les graines du figuier sauvage. Il n'était absolument pas tranquille. Et je trouve ça très intéressant eh bien, de l'entendre parler de comment il a créé cette œuvre.
C'était à la fin de la 4e semaine du tournage que j'ai su que j'étais condamné à 8 ans de prison. Et je me demandais si je pouvais, je devais continuer ce tournage. Je ne savais pas quel temps s'écoulerait entre ce premier jugement et le procès en appel et le deuxième jugement, et si ce temps me suffirait pour terminer le tournage. J'ai contacté mes avocats temps pour savoir combien de temps il s'écoulerait. Et sans me demander pourquoi je posais cette question, ils m'ont dit qu'il faudrait compter au moins un mois. Et comme il y aurait les vacances liées à la nouvelle année en Iran au mois de mars, qui sont des vacances assez longues, je me suis dit que je pourrais peut-être disposer du temps nécessaire pour terminer le tournage. Mais évidemment, avec une pression énorme sur mes épaules, puisque je me disais, si je me fais arrêter pendant ce tournage, je vais passer au moins 5 ans en prison.
C'était Mohamed Rasoulov. Nous parlions des graines du figuier sauvage qui est en salle depuis le 18 septembre. Franck est un tueur sur le déclin et il croise un sociopathe à ses jours de colère.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
On va le faire aujourd'hui.
Où est-ce que je te retrouve ?
Marseille.
Il y a un bateau qui nous y attendra.
Alors, ça y est.
Ça y est.
Alors, Jour de colère n'est pas un remake du classique de Dreyer, hein, mais un polar fantastique déroutant. Alors, le scénario d'Anthony Jaswinski part d'un bon postulat. Joey Starr joue un tueur à gages sur le déclin, Frank, qui laisse échapper son dernier contrat et décide de s'enfuir avec la femme qu'il aime. Là, rien de très novateur. Sauf que Frank rencontre dans un restaurant, un routier en fait, Virgile, un étudiant perdu au milieu de nulle part. Évidemment, il n'est pas ce qu'il paraît être, devenant donc l'antagoniste du film, admirable interprété par Joachim Fossi.
Alerte disparition. La jeune étudiante avait été aperçue près du campus universitaire.
Vous savez pas si un arrêt de bus dans le coin.
Et depuis, elle n'a pas donné signe de vie. Voilà maintenant 3 jours qu'on n'a plus de nouvelles de Laure Mertens.
Elle se repose maintenant. C'est moi qui l'ai tuée.
Alors hélas, un jour de colère ne tient pas toutes ses promesses dès lors qu'il joue la carte du thriller surnaturel, cumulant les invraisemblances avec un aplomb sidérant. Alors ce n'est pas parce qu'on glisse vers le fantastique que tout peut être justifié. C'est d'autant plus dommage que le film fourmille de bonnes idées narratives et visuelles, hélas pas toujours bien exploitées. Alors l'autre problème tient à l'interprétation de Joey Starr, alors physiquement très présent, mais peu expressif, et surtout d'Asia Argento, hein, catastrophique. Alors si on passe outre ses défauts, pour certains rédhibitoires, moi pas forcément pour moi. Hein. Jour de colère n'est pas une sortie de route, hein, à l'image de l'accident qui fait basculer le film du côté de l'absurde. Jean-Luc Herbulot, le réalisateur, hein, avec son drôle de cocktail mixant film noir, fantastique et western sur fond de légende africaine, se révèle un metteur en scène talentueux, capable d'instaurer une ambiance inquiétante, de jouer sur la porosité entre le réel et l'onirisme, grâce à l'élégance de la forme, du montage fluide et, aussi la photographie somptueuse. Alors il possède un vrai sens du cadre, apportant une densité à chaque scène. Alors si le récit ne partait pas totalement en vrille, et puis si les deux têtes d'affiche avaient un peu assuré un minimum, on tenait là une série B, même un modèle de série B tendu et puis assez original. Alors en l'état, un cinéaste à suivre, mais peut-être qu'il faudra qu'il fasse attention
à son choix d'acteur
entre autres.
voilà. Nous parlions de Jour de colère en salle depuis le 18 septembre. Une jeune fille qui s'est vue mourir va vivre une nuit persuadée que c'est la dernière. Nous parlons de la morsure.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire ?
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama. Dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est oui. Dans le sens inverse, c'est non. Est-ce qu'il va m'arriver quelque chose de grave ?
Françoise et Delphine font le mur. Alors on dirait une reprise de Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette, sauf qu'ici, le bateau est une destination bien mystérieuse. C'est une fête à rejoindre dans la maison vide à l'occasion d'un carnaval. Alors cette destination est d'autant plus insolite pour les deux jeunes filles qu'elles sont d'ordinaire cloîtrées chez les bonnes sœurs et un jour, elles cèdent à cet appel du monde extérieur en répondant à un message envoyé par une bande de garçons qui les regardaient à travers la grille. Alors l'aventure est certes excitante, mais Françoise est perturbée par une sorte d'épée de Damoclès qui pèse sur ses épaules et que lui ont révélé ses rêves. Elle va mourir au bout de cette nuit dans des flammes. Que va-t-il donc se passer derrière les murs de la bâtisse perdue au fond des bois qui accueille tous ces jeunes venus s'en canailler ? Et s'ils n'étaient pas tous jeunes et que l'un d'entre eux, Christophe pour ne pas le nommer, était beaucoup plus vieux, tel une créature nocturne traversant les âges.
J'ai fait un cauchemar. J'en fais souvent, mais jamais comme celui-là. Qu'est-ce qu'on peut faire en une seule nuit ?
Moi, une chose, mademoiselle.
C'était réel, comme une prophétie. Moi, je n'aurai jamais 20 ans.
Une jeune fille qui sait qu'elle va mourir rencontre un jeune homme qui ne peut pas mourir. Voilà un sujet séduisant et profondément poétique pour une œuvre qui ne manque pas d'élan lyrique, hein, comme en ayant la pudeur d'exister dans un carcan modeste. Car La Morsure, elle ne va pas aller s'aventurer en terrain horrifique ni en effet explicite et tonitruant. Le film de Romain de Saint-Blanca, dans son premier long métrage, puise au contraire dans un cinéma où l'atmosphère a un rôle central bien au-delà d'une narration complexe où tout passe par le verbe. Puisque le fil conducteur du cheminement de notre héroïne est un rêve, c'est à l'image d'une pauvre âme déambulant au gré des découvertes, tantôt merveilleuses, tantôt macabres, que nous avançons dans l'intrigue. Plus important encore, il y a une ambiance qui provient non pas que de la mise en scène ou de la photographie, mais par tout plein de détails, de gestes, d'interprétations des comédiens ou des phrases délivrées ici et là comme « chaque fois que mes parents ont eu un accident, c'était dans une voiture verte ». Alors que l'on devine que c'est un assez petit budget, la réalisation se permet quelques jolis tours de force, là où c'est habituellement le plus difficile pour ce genre de production. Passer une première partie entre les murs et l'enceinte de la maison, une errance nocturne à travers bois permet de visualiser la forêt comme on la voit rarement au cinéma, tout du moins dans le cinéma en prise de vue réelle. Les ombres denses prennent vie autour de Françoise et nous ne sommes pas loin du Blanche-Neige originel de Walt Disney, voire de quelques productions gothiques des années 80 du même studio, comme le bien nommé Les Yeux de la Forêt. On peut évidemment citer le cinéma fantastique italien et en particulier celui de Mario Bava, décidément plus que jamais à l'honneur sur nos écrans avec deux citations explicites dans Beetlejuice, Beetlejuice de Tim Burton, et le tout aussi récent Le Vourdalak d'Adrien Beau, qui reprend la même inspiration de Tolstoï que Bava dans son chef-d'œuvre Les Trois Visages de la Peur. Moins agressif que chez Dario Argento, La Forêt, entreaperçue comme dans, par exemple, Phénoména, tisse un lien avec l'âme profondément européenne et méditerranéenne du film.
Les gens d'ici pensent pas qu'autre chose est possible, mais ça veut pas dire que ça existe pas.
C'est pour ça qu'il faut faire un maximum de bruit, pour que les dieux nous entendent. Dans le sens des aiguilles d'une montre si je vis, dans le sens inverse si je meurs. Ah,
l'ambiance ne serait pas non plus ce qu'elle est sans la très belle musique d'Émile Sornin, lui aussi tout entier tourné vers des décennies passées et qui infuse ses sonorités mélodiques et mélancoliques dans cet hommage vintage, comme diraient les plus jeunes. Les plus jeunes d'ailleurs passeront sûrement à côté de cette belle mise en bouche d'un des cartons introductifs. On nous y mentionne que l'action se passe en 1967 et plus précisément le mercredi des cendres. Ce jour, unité de temps du film, est le premier jour du carême et voit le dépôt sur le front des fidèles, comme Françoise dans le film, d'une croix de cendres, symbole de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Il évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l'être, car quand l'homme se recouvre de cendres, c'est qu'il veut montrer à Dieu qu'il reconnaît ses fautes. Il devient victorieux du péché quand il aura remplacé le feu du mal par le feu de l'amour avec un grand A. La cendre, c'est ce qui reste quand le feu a détruit la matière dont il s'est emparé, et c'est tout le cœur du film de voir son héroïne aller jusqu'au bout, transcender ou non sa prophétie vue en rêve, et donc peut-être fausse, et aussi ainsi faire un premier pas vers un épanouissement et une liberté enfin trouvée. Soit l'opposé de la violence des expérimentations d'autres jeunes filles en fleurs dans le chef-d'œuvre de Joël Seria, mais ne nous délivrez pas du mal, où un duo plutôt maléfique, cette fois-ci, décide d'aller jusqu'au bout de ce que leur sexualité naissante procure et provoque dans leur entourage, jusqu'au point de non-retour via une liberté, elle aussi trouvée grâce aux flammes. Donc c'est un grand plaisir de voir que Romain de Saint-Blanca transforme l'essai, après son très enthousiasmant court-métrage Pin-Up de 2015, en conservant son amour du rétro et en développant une sensibilité très midi minuit fantastique franco-française.
Nous parlions de La Morsure, donc un film qui est maintenant en VOD. Manu, tu as tenu à parler d'un film de Fritz Lang. Nous t'écoutons.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Alors, réalisé dans la foulée de La Femme au portrait, son film jumeau, tant au niveau du casting que du sujet, La Rue Rouge est aussi le remake officiel de La Chienne de Jean Renoir, reprenant quasiment la même structure narrative, les changements étant opérés à un niveau plus subtil, plus ténu. Alors le film raconte l'histoire d'un homme, Christopher Cross, qui va tomber amoureux d'une femme qui va le manipuler avec la complicité de son amant. Alors démarrant presque comme une farce ironique, La Rue Rouge délaisse son humour cynique pour se transformer en un mélodrame social, alors bouleversant, doublé d'une réflexion sur la notion de culpabilité, thème cher à Lang. Alors baignant dans une atmosphère désenchantée, accentuée par une mise en scène épurée, filmant des décors ternes dans une lumière crue, La Rue Rouge mérite d'être redécouvert, s'imposant comme une œuvre majeure. Alors le film est distribué donc par Camélia, qui ressort en salle avec trois autres remarquables films noirs, dont il y a L'Emprise de John Cromwell, L'Évadé d'Arthur Ripley et puis Le Piège de André de Tott. Voilà.
Nous terminons cette émission avec Billy le Hamster Cowboy.
This
is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Voilà un court film d'animation segmenté en plusieurs histoires. Celles-ci sont menées par Billy, hamster qui a toujours rêvé d'être un cow-boy, accompagné par Suzy, la blairotte, qui parle aux arbres, et Jean-Claude, un ver de terre qui apprend ce qu'est le courage. Beaucoup de douceur dans ces histoires qui sont simples et solidement menées. Le dessin n'a rien à voir avec les films d'animation survitaminés de Disney, Universal ou DreamWorks. Donc là, il est simple, le trait est léger. Les histoires sont compréhensibles pour les enfants à partir de 3 ou 4 ans et jusqu'à 8 ans. Ça devrait être vraiment un plaisir. Donc je vous recommande ce film, Billy, le Hamster Cowboy, qui est sur plus d'une centaine d'écrans en France.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Elle lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. De vous revoir. De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous écouterons notamment l'acteur Victor Belmondo, et oui, le petit-fils d'eux, pour Vivre, Mourir et Renaître. Et puis nous parlerons d'un grand film.
Pour ma part, je vous parlerai du très attendu Mégalopolis, le dernier film de Francis Ford Coppola, et peut-être son dernier.
À la semaine prochaine.